C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcand, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes. Bonne écoute.
Mardi 10 mai, bonne journée. Bienvenue au 98.5. Ciel partiellement nuageux, température confortable ce matin autour de 12 degrés. Et on prévoit une journée ensoleillée. 24, c'est le maximum. Et jusqu'à maintenant, les prévisions tiennent la route. C'est-à-dire que demain, c'est du soleil 26, jeudi du soleil 29. Et puis vendredi, une journée encore une fois ensoleillée. 30 degrés, il n'y a pas de pluie de prévu avant possiblement dimanche. Parlons bien sûr de la guerre en Ukraine, jour 76. Tetiana Ogarkova, journaliste, est avec nous. Tetiana, bonjour.
Bonjour.
D'abord, décision quand même historique, le président Biden qui vient comme un peu dépoussiérer une loi qui date de la Deuxième Guerre mondiale, tout ça pour aider l'Ukraine.
Oui, tout à fait. Hier, tard dans la nuit, selon l'heure ukrainienne, cette loi a été finalement signée par Joe Biden, président américain, après être votée au Sénat et au Congrès. On se réjouit puisque justement, ça prouve la décision historique en fait de nos partenaires occidentaux que de soutenir l'Ukraine dans cette guerre injuste et absurde que la Russie mène contre nous. Ensuite, la date est aussi historique parce que hier, la Russie avait célébrait le 9 mai, c'est-à-dire le jour de la victoire, comme ils appellent ça, de la Deuxième Guerre mondiale, qu'ils appellent la Grande Guerre patriotique. On attendait avec inquiétude le discours de Poutine. On craignait que la mobilisation générale ou la guerre, la déclaration de guerre pourrait intervenir hier. Heureusement, ce n'est pas le cas. C'était plutôt un discours faible du côté de Poutine. Par contre, voilà cette décision historique de Joe Biden que de signer en fait la décision de gagner cette guerre, donc de faire que l'Ukraine dispose des armes nécessaires pour justement repousser l'armée russe de notre territoire, c'est historique et justement on espère que ne sera pas long à attendre les armements qui nous permettront de défendre notre territoire.
Parlons maintenant de ce qui se passe à Odessa, parce qu'encore là, il y a eu des tirs, des frappes et principalement dans la zone portuaire de la ville.
Oui, tout à fait. Odessa continue à être victime de frappes par missiles, mais des missiles qui détruisent des objets civils une fois de plus. Hier, un mort, 5 blessés. Mais c'est une série de frappes qui continue depuis quelques jours déjà. On se pose des questions sur l'objectif militaire de ces frappes, puisque Odessa se trouve quand même à une distance considérable des troupes russes sur le terrain, qui n'ont pas arrivé à prendre même Mykolaïv. Et se trouvent, certaines troupes se trouvent en Transnistrie, cette région de Moldavie occupée depuis 92. Malheureusement, ça crée un chaos, ça crée bien sûr de la panique, ça nuit une fois de plus à l'infrastructure et dont on n'arrive pas à détecter le sens militaire de cette frappe que de créer justement, de semer la terreur et puis de nuire à la ville prospère, la ville portuaire, la ville très belle d'ailleurs, qui avait des sympathies pour la Russie il y a 10 ans, mais aujourd'hui il voit malheureusement le prix de ses sympathies et donc les attaques continuent à faire des morts à l'intérieur de l'Odessa que nous on déplore tous les jours depuis quelques jours déjà.
Merci beaucoup Tetiana, on se reparle bien sûr demain pour voir comment la situation va évoluer. Donc c'est quand même un événement majeur, la loi signée par Biden. Et dans le fond, basé sur une loi qui remonte à la Deuxième Guerre mondiale, les Américains ont déployé des troupes dans les pays membres de l'OTAN, mais pour l'instant, il n'est pas question d'envoyer directement des soldats sur le territoire ukrainien. Alors voilà pour la situation. Maintenant, chez nous, il faut parler d'économie ce matin. Comme je disais au début de l'émission, je vous ai lu, beaucoup de camionneurs, puis des livreurs, puis des gens qui sont sur la route, puis je sais que vous êtes très, très nombreux à nous écouter le matin comme ça, qui trouvent ça extrêmement difficile. Puis hier, je me faisais un peu, comme on dit, un bilan. Tu regardes ça, là, depuis quelques jours. Puis là, parlons du prix de l'essence. On est au-dessus de 2 $, 2,04 $, 2,05 $. Le prix du diesel a explosé, 2,50 $. Tous les experts semblent dire que plus on va avancer, puis on va avoir des prix élevés. Alors, possiblement que pour vos vacances estivales, pour vos déplacements, on peut s'attendre à $2,20 le litre d'essence, qui est quand même énorme, là. Pour ce qui est du diesel, on commence à avoir une pression. C'est une augmentation spectaculaire depuis à peu près un mois. Et les montants payés aux camionneurs suivent pas. Et on peut comprendre les camionneurs artisans qui ont manifesté hier. On peut comprendre les gens qui disent « on roule à perte actuellement ». Puis un camionneur, puis quelqu'un qui vit sur la route, qui fait face à ses factures, n'est pas un citoyen différent des autres. Ses placements boursiers ou son fonds de pension ne va pas bien de ce temps-là. Hier, une des pires journées sur les marchés nord-américains. Et tout le monde semble dire que l'inflation, la perspective d'une hausse des taux d'intérêt, des craintes quant à l'approvisionnement venant de la Chine, tout ça mis ensemble, crée cette espèce de mouvement. Et conséquence, l'année 2022 sera pas une très, très bonne année. Quand t'es plus jeune, c'est moins grave, tu dis « je vais me rattraper ». Quand t'es plus vieux, c'est plus inquiétant, puis disons, ça apporte une dose d'anxiété. Alors, tu dis « l'essence augmente, mes placements, c'est tout croche, les taux d'intérêt vont augmenter, puis tout coûte plus cher ». Je voyais le reportage à TVA, une augmentation de 30 % pour les gens qui font couper la pelouse, font tondre le gazon. Et ça, ça vient s'ajouter à l'ensemble de tout ce qu'on voit avec un taux d'inflation qui est galopant. Puis tu sais, quand tu mets des centaines de dollars de plus quand tu es camionneur pour faire le plein, ben c'est sûr que c'est quand même extrêmement difficile. Et je voyais ce matin que je vous parlais de la Chine. Il y a un niveau d'inquiétude encore là. Et bon, il y a toute la notion de la COVID qui affecte les chaînes de production. Mais d'autres indicateurs économiques qui sont au rouge et qui rendent la situation pas mal inquiétante. On va parler de ce petit rorqual qui a été aperçu dans les eaux du Saint-Laurent, à Montréal, dans ce qu'on appelle le chenal Lemoine. On va reparler en détail avec Élisabeth tantôt. Mais c'est donc, après l'ours polaire, le sujet d'intérêt des gens. Puis les gens qui se disent, qu'est-ce qu'il fait là? Est-ce qu'on peut le récupérer? Est-ce qu'on peut aller le chercher, le transporter? Qu'est-ce qu'on doit faire? Ce qui est clair, il n'est pas dans son habitat naturel, primo. On se souvient, en 2020, on avait eu également cette baleine à bosse qui avait été vue et qui, malheureusement, est morte pas longtemps après. Et on avait découvert, à mon souvenir, qu'elle était affamée, là, qu'elle n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors, tous les gens qui l'ont observé, le rorqual, disent qu'il est finalement de petite taille, ce qui laisse croire qu'il est assez jeune. Et qu'est-ce qu'il fait ici? Est-ce qu'il peut remonter naturellement vers le Saguenay? Très, très bonne question. On regarde ça aussi avec Élisabeth tantôt, qui a parlé à M. Michaud, l'expert, là, qui fait partie du groupe de recherche et d'éducation sur les mammifères marins. Puis je vous parlais de la météo tantôt, là, des températures quand même assez extraordinaires. Pour cette semaine, c'est du soleil, puis du 24, puis du 26, puis même 30 degrés pour vendredi. Je sais que les auditeurs qui sont dans la production agricole espèrent de la pluie. C'est beau le soleil, fait du bien, mais il faut nourrir le sol, les récoltes à venir. En France, des augmentations de presque 10 degrés Celsius supérieures au normal de saison sont prévues cette semaine dans la région de Clermont-Ferrand, Bordeaux, Toulouse, Lyon. Et même, on a un risque de sécheresse qui est élevé parce qu'il n'y a pas beaucoup de précipitations depuis le début de la saison. Dans les prochains jours, donc, des températures qui devraient excéder les moyennes qui ont été observées entre 1980 et 2010. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas fait chaud depuis longtemps. Puis, on le sait, là, pour les gens qui voyagent ou qui vont reprendre les voyages après la pause pandémie, l'Europe, l'été, pensons à l'Italie, pensons même à la France, c'est de plus en plus synonyme de canicule puis de température extrêmement élevée. Puis là, je vous parle même pas de ce qu'on voit comme météo au Pakistan puis en Inde, là, où là aussi, on défonce des records. Mais tout ça pour vous dire qu'il y a un été chaud qui se prépare un peu partout sur la planète, dans la foulée des changements climatiques qu'on est en mesure d'observer. En parlant de ça, il y a tout le débat sur l'étalement urbain avec le dépôt hier de ce rapport qui a été présenté en disant il faut arrêter de construire des autoroutes. Il faut faire en sorte que les gens se concentrent dans des zones et qu'ils soient près de leur lieu de travail, que le transport collectif soit accessible. Et c'est un débat là, qui vient de s'engager, que je trouve quand même intéressant. Il y a le ministre François Bonnardel qui avait dit, lui, que c'était une mode, une espèce de tendance là, de dire « on densifie le territoire ». Et ça n'a pas été très bien reçu. Puis il avait dit « qui suis-je, moi, pour expliquer aux gens que vous allez aller vivre dans un immeuble et tout ça ». Hier, je parlais avec les mairesses de Longueuil et de Sherbrooke à l'antenne qui disent « on a un plan ». Ce matin, dans la presse, Saint-Lin, fini la construction immobilière, on n'ajoute plus. On va densifier ce qui existe. Densifier ne veut pas dire des tours, là. Ça veut dire avoir plus de gens sur le même territoire. Tout ça pour combattre les changements climatiques. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Comment ça va évoluer? Mais c'est sûr qu'il y a un débat qui doit se faire. Puis c'est un débat important. Puis en même temps, hier, quand on a fait la tribune téléphonique, la question était la suivante. Vous vivez où? Puis dans 3, 4, 5 ans, vous pensez vivre à quel endroit? Des gens qui quittent Montréal, qui vont s'établir en périphérie, pas des gens qui veulent faire la navette nécessairement, là, arrivent avec le vieillissement de la population. Moi, je suis pas un spécialiste, je suis pas un démographe, mais c'est sûr qu'on observe, je dirais, des citoyens qui décident de s'éloigner, qui veulent avoir de l'espace. Et là, ce qu'on explique aux gens, c'est que si tu veux aller vivre plus loin, on ne te fera pas plus de route pour que tu viennes plus vite à Montréal ou que tu te retrouves plus vite à Longueuil. Donc, faut que tu acceptes peut-être de vivre à l'étroit un peu plus, en tout cas moins d'espace, autre type d'habitation, parce que c'est le plan de l'avenir. C'est ce que les élus fraîchement là, choisis depuis l'automne dernier nous disent. C'est vrai pour Laval, c'est vrai pour Longueuil, c'est vrai pour Québec, c'est vrai pour Montréal. C'est ça. Et c'est pas une tendance, pas une mode, c'est comme un constat qu'on doit faire. Une fois qu'on a dit ça, quels sont les choix des citoyens? Puis c'est important, je pense, que les gens se posent la question. Tu veux vivre à quel endroit? Montréal, ça coûte la totale. Tu veux vivre première couronne, ça coûte encore assez cher. Tu veux travailler à Montréal, tu veux faire du télétravail, tu décides de changer ta vie puis de relever un nouveau défi ailleurs. Je pense que je vais poursuivre pendant encore une couple de jours ce sujet-là parce que je trouve qu'il est fondamental. Puis ça fait aussi l'objet d'un débat de nos commissaires ce matin. Alors, question qu'on peut se poser, on veut vivre à quel endroit? Puis la deuxième question ce matin, c'est quelle sorte d'école voulons-nous? Il y a le mouvement École Ensemble qui a présenté un plan et qui vise à faire disparaître les écoles privées pratiquement à 100%. Il y a ce qu'on appelle l'école à trois vitesses. Vous avez l'école publique standard, vous avez l'école publique avec des projets particuliers, puis vous avez l'école privée. Dans les deux derniers cas, vous avez ce qu'on appelle une sélection, et vous avez aussi la capacité de payer des parents, qui est en qu'il faut tenir compte. Pas évidemment dans toutes les écoles là, où on a des programmes, mais c'est sûr que l'école privée demeure extrêmement fréquentée par les Québécois. Il y a un intérêt et on le voit. Les parents font des choix. Et il faut défaire le mythe là que ce sont des gens riches qui envoient leurs enfants à l'école privée. Il y a beaucoup de gens de la classe moyenne qui se serrent la ceinture, qui font des choix et qui préfèrent investir parce qu'ils font davantage confiance à l'école privée qu'à l'école publique. Surtout au niveau secondaire. Ça peut choquer, là. L'idée, c'est pas ça, c'est une réalité. Et l'école publique a voulu compétitionner l'école privée en disant, ben, faisons des programmes, et on peut penser évidemment à l'éducation internationale, on peut penser à du sport-études, on peut penser à l'apprentissage de l'anglais. Bref, on veut attirer. Et là, ce mouvement-là nous dit quoi? Ben, subventionnons la totalité des écoles, incluant les écoles privées. Il n'y a plus de sélection et la base, c'est d'accueillir les enfants, les ados qui habitent dans le quartier. Ça devient l'école du coin. Peu importe vos notes, peu importe la capacité de payer de vos parents. Le principe, appuyé par des études, c'est de dire, ben, si on met tout le monde ensemble, les gars, les filles, les moins bons, les plus talentueux, ben, ça va aller de façon positive, ça va tirer la classe vers le haut. Puis ça va donner une meilleure éducation à l'ensemble des Québécois. Pas tout le monde qui pense ça. Pas tout le monde qui est d'accord avec ça. Puis on va en parler ce matin justement avec quelqu'un de ce mouvement-là. Mais il y a quand même, puis je le sais, on va me dire, oui, mais le Québec subventionne les écoles privées, l'Ontario le fait pas. Demain matin, vous enlevez les subventions, c'est sûr que la totalité des écoles privées, moins peut-être 5, 6, 7, là, vont disparaître. Il va rester quelques écoles là, indépendantes. On peut penser peut-être à quelques classiques comme Brébeuf, puis des écoles anglophones où les parents vont payer 10 000 par année, là, puis qui vont se dire, ben moi, je le paye parce que j'ai les moyens de le faire. Mais ça va devenir hyper marginal. Donc, ce sera un de nos sujets de discussion ce matin. Rapidement, dans les autres nouvelles, Radio-Canada nous parle ce matin de cette histoire de l'épreuve unique de français. Et ça a eu lieu jeudi dernier pour les élèves de 5e secondaire. Puis ça a l'air que dans certaines classes, ils avaient droit à un dictionnaire numérique, puis dans une autre classe, ils avaient droit juste au dictionnaire classique. Et c'est un dictionnaire qui a été élaboré, c'est un outil là, numérique qui s'appelle Usito, développé par l'Université de Sherbrooke, dit Radio-Canada. Et il y a des élèves qui ont travaillé avec ça durant l'année, donc ils ont eu droit à ça. Puis ceux qui n'avaient pas cet outil-là, ce dictionnaire, n'ont pas pu le consulter à l'examen, puis il paraît que ça aidait pas mal à l'examen. On va poser une couple de questions ce matin, mais il y a des gens qui sont assez dérangés par cette situation-là. Et juste vous dire en terminant, que l'œuvre d'Andy Warhol, qui est Marilyn Monroe en peinture, s'est vendue hier chez Christie's à New York. Et tenez-vous bien, c'est une toile 40 pouces par 40 pouces. C'est mythique, là. J'imagine que vous avez même l'image en tête, là. C'est l'usage de Marilyn Monroe. Il y a des couleurs tout à fait exceptionnelles. Ça s'est vendu 195 millions. On ne connaît pas qui est l'acheteur.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause. L'essentiel de Paul Arcand. Tout ce que vous devez savoir en moins de 60 minutes.
Alors, c'est sûr qu'au quotidien, nous sommes confrontés à des hausses de prix, prix de l'essence, aussi prix quand même du diesel, des camionneurs hier qui ont manifesté. Et qui disent rouler à perte, donc les augmentations sont substantielles. Le prix, par exemple, du diesel a explosé. On va essayer de démêler tout ça avec Pierre-Olivier Pinault, qui, vous le savez, est professeur titulaire de la chaire de gestion du secteur de l'énergie à HEC Montréal. Monsieur Pinault, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcand.
Alors, d'abord, la question de base, pourquoi cette explosion du prix du diesel?
Mais là, c'est parce qu'on a vraiment moins de diesel qui sort de Russie. C'est une combinaison de... On a entendu parler de l'embargo que les Européens préparent pour se passer du pétrole russe et des produits pétroliers russes. Mais en plus, la Russie semble avoir avancé cet embargo en cessant ses exportations et en disant qu'il avait besoin de davantage de diesel pour la guerre en Ukraine. Mais là, il y a véritablement en Europe moins de diesel qui arrive de Russie. Et donc l'Europe qui roule plus au diesel que l'Amérique du Nord fait en sorte qu'elle demande plus de diesel. Et ça détourne des quantités de diesel qui arrivaient sur le marché nord-américain. Ça les amène vers l'Europe puisqu'il y a un besoin européen et ça fait monter les prix.
Est-ce que vous avez l'impression donc que c'est un prix qui va être croissant pour les prochains mois dans la mesure où si l'embargo fonctionne, les demandes vont être encore plus fortes en Europe?
C'est-à-dire que croissant, c'est difficile toujours de dire l'impact sur le prix, mais c'est évident que ça va se maintenir pendant longtemps parce que ce manque à gagner dans la production de diesel, la Russie est un gros exportateur de diesel plus que d'essence. Donc c'est pour ça qu'on voit que là, au niveau des quantités qui sont moindres au niveau des exportations russes, eh bien on a le double effet de du prix du pétrole et le prix de qui est déjà inclus dans le prix du diesel, mais là la pénurie de diesel qui fait augmenter le prix. Donc ça va se maintenir parce que rien laisse présager un règlement de conflit en Ukraine.
Quand on regarde le prix de l'essence, le prix du diesel, j'aimerais vous entendre aussi sur les autres dérivés d'autres produits pétroliers. Par exemple, si on pense à de l'huile à chauffage, est-ce qu'on peut s'attendre là aussi à des augmentations ou encore dans des matières plastiques?
C'est-à-dire que comme tous ces produits-là sont dépendants du pétrole, il y a évidemment et forcément des augmentations. pour l'huile à chauffage, ben c'est moins un problème en ce moment quand on arrive au printemps. Et puis, d'une manière générale, surtout au Québec, là, il n'y a plus tant de bâtiments qui sont chauffés. Il y en a encore, mais il y en a de moins en moins qui sont chauffés à l'huile à chauffage. Pour l'asphalte, ça va coûter beaucoup plus cher si vous voulez faire réasphalter votre entrée de garage. Ça, c'est sûr que pour tous les travaux publics, l'asphalte va subir des hausses de coûts. On le fait dans la construction d'une manière générale. Il y a des pénuries de main-d'œuvre et il y a une surenchère. Mais là, en plus, au niveau de l'asphalte, ça, c'est directement tiré du pétrole. Il y aura des hausses de coûts.
Quand nous nous sommes parlé au début de la guerre et surtout des premières sanctions annoncées par les alliés, vous m'avez dit, quand on veut affecter l'économie russe, si on touche pas au secteur énergétique, on passe pas mal à côté. Avez-vous l'impression que depuis ce temps, les mesures sont plus concrètes et font plus mal à la Russie?
Mais c'est sûr qu'on se rapproche de mesures. L'Europe là parle explicitement et prépare un embargo sur les produits pétroliers. On n'est pas rendu au gaz, mais c'est évident que ça va faire mal à la Russie. Ça va commencer à faire mal à la Russie. Poutine a l'air très déterminé, donc c'est très difficile de dire jusqu'à quel point et quel degré de souffrance il va être prêt à infliger à son propre peuple et à l'humanité. Mais oui, ça va faire mal à la Russie, c'est certain.
Puisque je vous ai en ligne, parenthèse sur cet avis qui a été présenté hier concernant la protection des milieux naturels et de lutter contre l'étalement urbain, vous le répétez souvent, quand on regarde la consommation, on a beau parler des prix ce matin, mais quand on regarde la consommation des automobilistes québécois, tout le secteur du transport, le type de véhicule, la tendance, elle est lourde quand même. Là. Les prix augmentent, mais les changements d'habitude n'ont pas vraiment commencé.
Non, absolument. C'est pour ça que le comité dont je fais partie, de comité conseil sur les changements climatiques au ministre de l'Environnement, nous lui avons recommandé, dans notre avis, d'avoir une politique bien plus musclée sur l'étalement urbain et l'occupation du territoire. C'est très structurel. On sait que pour la protection des milieux naturels, c'est essentiel, mais il faut aussi organiser le Québec de telle manière que c'est possible d'avoir du transport en commun, c'est possible de faire du transport actif pour la majorité des Québécois. Aujourd'hui, on est très dépendant de nos automobiles. Il y a des avantages, mais il y a beaucoup d'inconvénients et c'est pour ça qu'on dit qu'il faut redresser la barre et commencer progressivement à changer la manière dont on occupe le Québec.
Merci, M. Pinault. Bonne journée.
Ça m'a fait plaisir. Bonne journée à vous.
Pierre-Olivier Pinault est professeur titulaire de la chaire de gestion du secteur de l'énergie à HEC Montréal.
L'essentiel de Paul Arcand. Tout ce que vous devez savoir en moins de 60 minutes.
Parlons d'éducation. Le mouvement L'École Ensemble a présenté hier une proposition pour mettre un terme à ce qu'on appelle l'école à trois vitesses. Stéphane Vigneault est le coordonnateur de ce mouvement. Monsieur Vigneault, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcand.
Pourquoi il y a trois vitesses à l'école? Comment vous définissez les vitesses d'abord?
Bien, au Québec, on a un marché scolaire où les écoles se font concurrence. On a ce qu'on connaît bien, les écoles privées subventionnées. En réaction à l'écrémage de ces écoles-là dans le temps, surtout vers la fin des années 80, l'école publique a réagi en créant des écoles publiques sélectives, donc qui sont allées concurrencer l'école privée sur son terrain, c'est-à-dire sélectionner les élèves les plus performants, qui ont le plus de facilité, les plus en moyen aussi. Et la troisième vitesse, bien, c'est l'école publique ordinaire, donc ceux qui sont en rien. Et donc, dans ces classes-là ou dans ces écoles ordinaires, bien, on a une surreprésentation d'élèves en difficulté ou défavorisé. Donc, le système est complètement déséquilibré. Là.
La proposition, là, si je la résume, puis vous me corrigerez si c'est pas ça, vous dites, dans le fond, stoppons les subventions aux écoles privées, faisons de ces écoles des écoles publiques basées sur le quartier et la fréquentation des élèves serait justement axée sur à quel endroit tu habites, voici l'école que tu vas fréquenter.
Oui, ça ressemble à ça. Ce qu'on dit, c'est ce qu'on appelle le réseau commun, donc inclurait les écoles publiques et les écoles privées conventionnées. Donc, effectivement, les écoles conventionnées sont financées à 100%, donc sont gratuites, deviennent des écoles de quartier. Mais on offrirait quand même aux écoles privées actuelles un statut d'école non conventionnée. Donc, une école privée qui dit « moi, je veux pas me conventionner », ben elle est en dehors du réseau commun, mais n'a plus aucune subvention.
Mais ça veut dire concrètement qu'au Québec, là, s'il n'y a pas de subvention, les coûts de scolarité seraient quoi, de 10 000 par année, je sais pas, 15 000?
10 000 en montant, oui.
Ça veut dire que ça y resterait que quelques écoles comme ça, là, fréquentées par quelques enfants de familles riches. Là.
C'est ça. Nous, le meilleur comparatif qu'on a, c'est l'Ontario, où il y a effectivement un réseau privé, un vrai privé non, non subventionné. Et là, au secondaire, il y a à peu près 7 % des élèves qui y vont. En Angleterre, c'est la même chose, c'est 7 % aussi. Donc, ça va tourner autour de ça au Québec aussi.
Mais pourquoi il y a eu, selon vous, cet engouement pour l'école privée ou l'école avec des programmes là, adaptés? Parce que c'est pas tous des gens riches là, qui payent pour envoyer des enfants à l'école privée.
Pas
là,
du tout,
La classe moyenne qui se dit, ben moi, je fais le sacrifice. Je pense que c'est mieux pour mon enfant.
Oui, ben c'est un cercle vicieux. Puis, le Québec a mis le pied là-dedans il y a 50 ans, quand on a commencé à financer les écoles privées. Une fois qu'une école commence à écrémer les autres, ben là, les parents voient ça puis se disent, OK, ben mon école de quartier est écrémée, peut-être je suis mieux d'aller au privé ou bien je vais aller au public sélectif. Plus les parents en moyen les quittent, ben plus on envoie le message que cette école-là est dévitalisée. Les profs aussi l'évitent. Le Conseil supérieur de l'éducation a tout documenté ça en 2016. C'est un cercle vicieux qui se renforce constamment. Donc, là, on a atteint la limite. L'élastique est brisé. On l'a tiré. Comme disait Véronique Yvon ce matin, on est rendu au bout de cette logique-là. Donc, il faut passer à autre chose. Il faut briser le moule. Et c'est pour ça que le plan pour un réseau scolaire commun voit tous les aspects. On a retourné toutes les pierres. On a tout considéré. Et on offre, vraiment un plan cohérent, ambitieux, mais pragmatique, chiffré.
Par exemple, vous dites, il faut réunir tout le monde, les gars, les filles dans la même école, même classe, évidemment, les élèves performants, doués, comme les élèves qui ont des difficultés, que les meilleurs vont tirer les moins bons vers le haut.
Oui, tout à fait, c'est ça. Puis partout dans le monde, quand on fait ça, on se rend compte que ceux qui ont plus de facilité sont pas du tout affectés s'ils ont quelques élèves en difficulté avec eux. Et au contraire, les élèves plus en difficulté se font tirer vers le haut. Ça, c'est pour les notes, mais aussi toute la cohésion sociale. Si on se fait séparer si jeune, puis vous avez vu les cas récemment là, des enfants de 4 ans qui se font refuser à l'école publique parce qu'ils sont pas assez bons en mathématiques, si on se fait séparer si jeune, chacun dans notre petit silo social, qu'est-ce qui reste de la société?
Mais là, j'entends mes auditeurs qui disent « c'est bien beau pour les enfants qui ont des problèmes, puis on va bien les aider, mais moi, mon fils ou ma fille va bien, est-ce que c'est une forme de nivellement par le bas, j'ai envie que mon enfant ait accès à ce qu'il y a de meilleur. »
Oui, oui, bien, je pense que ces parents-là, ce qu'ils imaginent en ce moment, c'est le système actuel là, qu'on connaît tous. Donc, ils s'imaginent la classe écrémée, la classe ordinaire, puis ils se disent, mais je veux pas que mon enfant ait là. Puis ils trouvent le moyen de la contourner. Mais c'est justement avec le réseau commun, cette classe ordinaire écrémée sera une chose du passé, un mauvais souvenir. On aura des classes équilibrées où tout le monde va s'épanouir. L'idée, c'est pas d'enlever du choix à certains, c'est d'offrir du choix à tous. D'offrir des attentes élevées à tous les enfants. Tous les enfants méritent des attentes élevées. Donc, c'est vers ça qu'il faut aller.
OK. Et en résumé aussi, pour être clair, vous êtes pas contre les programmes spécifiques comme l'éducation internationale?
Non, c'est ça. Dans notre plan...
Qu'il y ait du sport-études, vous êtes pas contre ça non plus.
Une école pourrait continuer d'être une école internationale ou une école alternative, mais ne choisirait plus ses élèves. Donc, elle offrirait à tous les élèves de sa communauté son programme, sa philosophie. Puis je pense qu'on reviendrait un peu aux bases, ces programmes-là internationaux, alternatifs. International, c'était supposé être une ouverture sur le monde. Alternatif, c'était une sorte d'inclusion des parents, de la communauté. Donc, on reviendrait vraiment aux racines de ces programmes-là qui ont un peu dérivé, des fois un peu beaucoup, vers juste un moyen de concurrencer l'école privée subventionnée. C'est ça aussi l'autre chose absurde. C'est la main gauche puis la main droite qui sont en concurrence.
Je pense à des programmes sport-études, des programmes de hockey, par exemple.
Ouais.
Puis là, il y a comme deux approches. Une première qui dit, ben il faut avoir des bonnes notes. Ça va forcer l'élève à avoir des bonnes notes parce qu'il veut jouer au hockey. Puis l'autre approche qui dit, ben le fait qu'il y ait des mauvaises notes puis qu'on lui permet de jouer au hockey, au contraire, ça va peut-être le motiver davantage à étudier.
Oui, oui, oui.
Vous êtes dans quelle philosophie, vous?
Ben peut-être un peu entre les deux, c'est-à-dire que les projets particuliers en ce moment, exactement, on les justifie en disant ça va donner une motivation supplémentaire pour les élèves en difficulté. Ça va les stimuler, ils vont aller à l'école, ils vont mettre le chandail, ils vont être fiers. Mais dans la réalité, c'est pas mal à ces élèves-là qu'on interdit d'y aller aux projets particuliers. Parce que là, il y en a à 400, il y en a à 1400, il y en a à 14 000 $ par année. Donc ces élèves-là, ceux qui en auraient le plus besoin, ils peuvent pas y aller. Ceux qui n'ont pas les notes non plus, ils peuvent pas y aller. Donc, ce système-là est cassé, là, ça marche pas. Nous, ce qu'on propose, c'est, on, pour nous différencier, on parle de parcours particuliers. On dit que chaque école du réseau commun va en offrir. On présente un modèle pour le faire, c'est-à-dire, c'est un modèle qui existe déjà, la cinquième période, ça existe dans une école à Princeville depuis 10 ans. Ce qu'ils font, c'est couper un peu leurs 4 périodes quotidiennes pour créer une cinquième période. Et c'est là qu'ils offrent des choix d'enrichissement. Une petite ville comme Princeville, leur école offre 12 programmes. Donc, imaginez une ville plus grosse. Donc, on a tous les sports imaginables, le théâtre, la robotique, les langues. On va vraiment chercher les capacités du milieu. Si l'école est proche d'un conservatoire, d'une forêt, bien, on peut offrir des programmes de cinquième période qui sont en lien avec la communauté. Donc, c'est tout le contraire d'une école beige. C'est vraiment une école qui a sa personnalité propre.
En terminant, si la base, c'est l'école de quartier, puis là, je parle au niveau secondaire, par exemple, est-ce qu'on ne va pas maintenir cette disparité, c'est-à-dire des quartiers plus huppés de Montréal, plus cossus, face à des secteurs plus défavorisés?
Oui, ben c'est une excellente question. Quand on a consulté pour rédiger le plan, surtout les gens en Europe nous ont dit « faites attention aux cartes scolaires parce que vous pouvez exactement capter la ségrégation résidentielle ». Donc, c'est pour ça qu'on a utilisé une méthode, c'est nouveau, ça vient de la Suisse, ils appellent ça l'optimisation des bassins scolaires. Donc, en gros, c'est quand on dessine les cartes, là, il n'y a aucun critère au Québec, là, c'est fait sur le coin d'une table, puis bon. Mais si on se donne des critères clairs, par exemple, de dire on veut que les bassins scolaires soient semblables entre eux, bien là, on se donne un indice socio-économique, puis on dessine les cartes en conséquence, on maximise la proximité, puis dans le plan, on a donné l'exemple, on a tout modélisé Laval. On a demandé aux Suisses, la firme en Suisse, faites-nous le cas de Laval. Donc, vous voyez, tous les bassins scolaires de Laval, les gens sont très proches, 4 km en moyenne de chez eux à Laval, quand même bon. Plus, on a tous les bassins qui sont à peu près à plus ou moins 5 % de la moyenne. Donc, les parents regardent cette carte-là et disent, ben, mon bassin scolaire ressemble beaucoup à celui des voisins. Pourquoi le contourner? Pourquoi déménager? Donc, tout ce stress-là, toute cette course, tout le magasinage scolaire, on met ça de côté. On apaise le système, puis on revient aux bases, apprendre, aller à l'école ensemble.
Monsieur Vigneault, merci de votre
visite
ce matin. Stéphane Vigneault est coordonnateur du mouvement L'École Ensemble.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. De retour après la pause. L'essentiel de Paul Arcan. Tout ce que vous devez savoir en moins de 60 minutes.
Gilles parlait tantôt de la présence de ce petit rorqual dans les eaux du Saint-Laurent, à la hauteur de Montréal, donc dans le Vieux-Port, pour être plus précis. Il semble de taille assez moyenne, je dirais. On se souvient de la présence d'un autre phénomène du genre il y a quoi, 2 ans. Et là, il y a beaucoup de questions qui se posent. Puis depuis qu'on a vécu l'épisode des ours, en fait, de l'ours polaire, là, les gens m'écrivent en disant, « M. Arcan, qu'est-ce qu'ils attendent? Faut aller le récupérer, faut le déplacer, faut le ramener dans son habitat naturel. » Robert Michaud est le PDG et directeur scientifique là, du groupe de recherche et d'éducation sur les mammifères marins. Monsieur Michaud, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcan.
D'abord, ce petit rorqual, parce qu'il semble de taille juvénile, là, de ce qu'on comprend, là, d'après vous, il fait quoi ici?
Bonne question. C'est un phénomène relativement rare, mais pas exceptionnel. On voit ça chez tous les espèces animales, les baleines y compris. On se rappelle évidemment du rorqual à bosse de 2020. Alors, les causes d'un tel vagabondage, est-ce que c'est un jeune inexpérimenté qui a fait des erreurs? Est-ce que c'est un animal qui était gourmand, qui était motivé par une chasse de poissons particulièrement alléchants? On est dans la période de la remontaison des poissons. Est-ce que c'est un animal désorienté qui était malade initialement, puis il a fait de mauvaises décisions parce qu'il est en mauvaise condition? C'est difficile à dire, mais toutes ces questions-là sont possibles. C'est souvent des jeunes, comme cette fois-ci, ça semble se confirmer qu'on a affaire à un jeune. On n'a pas encore une très bonne estimation de l'âge parce qu'on n'a pas pu mesurer l'animal, mais ça pourrait même être un jeune né l'hiver dernier. Alors, c'est ça. C'est un phénomène naturel relativement rare. On voit ça chez toutes les espèces. Puis là, bien, c'est une situation malheureuse parce que c'est pas un bon endroit pour un petit rorqual se retrouver en eau douce, surtout pas dans une rivière comme où il est présentement.
Bon, c'est un peu ça la deuxième question, c'est-à-dire quelle est la capacité que ce petit rorqual puisse rebrousser chemin et retrouver son habitat naturel?
Bien, elle est réelle, elle est tout à fait réelle et ça a été documenté dans d'autres cas. C'est le scénario optimiste. Déjà que l'animal est passé toute la journée hier dans le chenal Lemoine avec un comportement assez régulier, c'est-à-dire il se tenait presque sous la passerelle, sous le courant. Ça, ça a été notre première déception. Parce qu'il est en quelque sorte dans un cul-de-sac. Hein. Même s'il voulait monter jusqu'à Toronto, il n'y arriverait pas. Là. Ça passe pas. Fait que passer le vieux port, passer en amont du chenal Lemoine, en haut, ça passera pas. Il y a des rapides. Là. Il peut pas. On l'espère qu'il ne prendra pas les écluses de toute façon. Fait que là, il est dans un cul-de-sac et une réaction normale aurait dû être de se retourner de bord puis de se rediriger vers l'aval. Bon, pourquoi celui-ci ne le fait pas? Le fera-t-il? C'est ce qu'on souhaite au plus haut point.
Bon, la question de mes auditeurs, est-ce qu'on peut récupérer ce petit rorqual et le transporter jusque chez lui?
Bien, difficilement, mais d'abord, on va se poser la question pourquoi. Le GREM agit comme mandataire de Pêche Océan et avec un grand nombre d'organisations pour coordonner le réseau québécois d'urgence sur les mammifères marins. On reçoit 700 appels pour traiter environ 400 à 500 incidents impliquant des mammifères marins. Alors, avant de commencer notre travail, on s'est posé la question dans quelles circonstances on devrait intervenir et pourquoi. Et notre considération première, c'est que si la situation a une cause humaine, si un animal est en difficulté, par exemple, il est pris dans un filet d'un pêcheur ou il est captif dans un enclos, on va intervenir, on le fait et on fait des efforts considérables. Il y a des gens qui se sont spécialisés dans le dépêtrement des animaux dans des filets. Dans ce temps-là, on ne ménage pas nos efforts. Si c'est un animal qui appartient à une espèce en voie de disparition, bien, l'exercice est différent. On va évaluer est-ce que le sauvetage d'un animal, peu importe pour quelle raison il est mal pris, est-ce que le sauvetage va aider la population à se rétablir? Parce qu'habituellement, on s'entendra que les espèces qui sont en voie de disparition sont un peu de notre faute. Alors, est-ce qu'on peut remédier? Est-ce qu'on peut compenser? Et si on n'a pas des réponses positives à un de ces scénarios-là, ben notre propension, c'est de laisser aller la nature. Parce que ça arrive que des animaux se mettent dans le pétrin par eux-mêmes. Et qui sommes-nous, en quelque sorte, pour intervenir, pour changer le cours de ces processus-là? Surtout que ces processus-là ou ces incidents-là impliquent souvent des animaux qui sont hypothéqués ou à la base déjà malades. On a déjà peut-être des tentatives, puis on s'aperçoit après avoir tenté de sauver l'animal qu'il était condamné, puis c'est pas pour rien qu'il est venu dans ces endroits-là. Fait que ça, c'est notre position de okay. base. Maintenant, là, on a quand même beaucoup d'empathie, de compassion pour ces animaux-là. Des animaux qu'on aime, on travaille à les protéger. Fait que qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider? Fait que là, c'est de maximiser sa sécurité. Parce qu'on pense que les meilleures chances de survie, c'est qu'il retourne par lui-même. Parce que tenter de le détourner, de l'attirer vers l'aval, de le repousser, c'est pas simple. Les fois que ça a été tenté ailleurs, ça ne fonctionne pas bien. Il faut se rappeler qu'on a quand même 450 kilomètres à parcourir. Et la possibilité de le capturer, ben c'est pas banal. C'est un gros animal et la capture comporte des risques vraiment non négligeables de blesser l'animal. Alors, donc même si on voulait, on n'a pas d'option facile, on n'a pas d'option qui fonctionne bien. Alors, pour l'instant, on revient à la posture qu'on avait avec le rorqual à bosse. On observe, okay. On va essayer de lui offrir un environnement le plus sécuritaire possible. Évidemment, on demande aux gens, aux curieux, de s'empêcher ou d'éviter d'aller sur l'eau avec des embarcations pour les voir. C'est un animal qui, on peut l'imaginer quand même, relativement pas mal stressé. On ne peut pas ajouter de stress. Les gens de la SPVM, l'escouade nautique nous a offert son support, comme les agents des pêches de pêche océan. Si jamais il y avait des gens qui voulaient s'aventurer en petites embarcations, ben on va mettre en place un système. Mais pour l'instant, on se fie au bon jugement et à la bonne volonté des citoyens pour limiter les interactions avec l'animal. Et s'il reprend le chenal, ben on a déjà averti la gestion du trafic maritime, les pilotes savent déjà la présence de ce petit rorqual-là. On va augmenter la vigilance, mais c'est assez limité ce qu'on peut okay. faire, M. Arcand.
M. Michaud, en terminant, pourriez-vous nous rappeler les circonstances de la mort du rorqual de 2020? Qu'est-ce qui s'était passé dans son cas?
En 2020, on avait pu récupérer la carcasse, l'amener pour en faire une nécropsie complète. C'est les vétérinaires, les pathologistes de la Faculté de médecine vétérinaire qui avaient procédé à ça. Puis on a retenu deux causes possibles. Clairement, c'est un animal qui s'est détérioré rapidement. C'est une mort vraisemblablement soudaine. Une des hypothèses, c'est une collision avec un grand navire. Il y avait un hématome majeur sur le flanc de l'animal, mais la nécropsie n'a pas pu permettre de confirmer que c'était la cause de la mort. Mais c'est demeuré une hypothèse sérieuse, une collision. Et l'autre, c'est un dérèglement multisystémique, physiologique, majeur, suite à une infection par des algues, entre autres des oomycètes, qui couvraient le dos de l'animal. Cette infection cutanée-là a fait des lésions cutanées, des lésions dans la peau, et il y a pu y avoir une infection dans le sang qui s'est propagée dans tous les systèmes. C'est quelque chose qui aurait entraîné la mort assez rapidement. On avait pu documenter, puis ça, c'est assez intéressant, que l'animal, vraisemblablement, n'avait pas mangé. On a regardé, évidemment, qu'est-ce qu'il y avait dans l'estomac, l'intestin. Il n'avait pas mangé dans les derniers jours. Alors, c'est un des défis auxquels fait face, on croit, notre petit rorqual, présentement, c'est qu'il est dans l'eau douce. Il n'est pas équipé pour survivre dans l'eau douce. Il va probablement, pour l'instant, il est très propre. Sa peau est très belle. L'animal n'a pas l'air émacié. Mais s'il ne mange pas, s'il devient couvert d'algues, bien, sa survie va être compromise. Alors, c'est pour ça qu'on se croise les doigts, évidemment, parce que s'il décidait de retourner, ce matin, nos bénévoles sont en place. Une équipe vient d'arriver. À 8 heures, personne ne l'avait vu encore. Alors, on cherche, là, on se promène autour de l'île, autour du chenal. Et j'espère que quand on va se reparler, M. Arcand, je vais vous dire, ah, on l'a revu, on a pris les bonnes photos, on pourrait le réidentifier, on l'a revu à Tadjouk qui est dans le parc marin et tout va bien.
Ben, c'est ce qu'on souhaite. Merci beaucoup, M. Michaud. Bien intéressant de vous entendre. Bonne journée à vous.
Ça m'a fait plaisir. Bonne journée à vous.
Au revoir. Robert Michaud est le président et directeur scientifique du groupe de recherche et d'éducation sur les mammifères marins et coordonnateur du Réseau québécois d'urgence pour les mammifères marins.
C'est 23.